Lors de notre précédent épisode, nous avons pu commencer à dresser un portrait du métier de chargé de diffusion avec notre invité, Arnaud Guéry. Aujourd'hui, place à Capucine Jossot, de la compagnie Frotter Frapper. A-t-elle les mêmes relations avec les artistes? La dimension commerciale est-elle prioritaire?
Bonjour Capucine, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter?
Je suis Capucine Jossot, je suis chargée de production et de diffusion depuis 6 ans pour la compagnie Frotter Frapper, qui est une compagnie qui est dirigée par la violoncelliste Noémie Boutin et qui est basée à Lyon.
C'est quoi, pour toi, le métier de chargée de diffusion?
C'est une personne qui est chargée de participer à la vente d'un spectacle d'une compagnie. Sachant que participer à cette vente inclut tout un panel d'actions qui est de faire connaître au maximum le travail de l'artiste, le projet en question, de faire venir les professionnels, d'entretenir des liens avec eux. Et la question de la diffusion, elle est très variable d'une compagnie à une autre. Pour certains, ça va vraiment être, et d'ailleurs ça se voit dans les modèles économiques de certaines compagnies, c'est de la vente pure et c'est en fonction du nombre de dates qu'on est payé. J'ai la chance, je crois, d'être dans une logique plutôt de développement, où j'ai un salaire fixe. Enfin, on en reparlera, mais voilà, c'est assez différent en termes de pensée, de structure et justement de c'est quoi la diffusion.
S'il y avait trois qualités ou compétences que tu estimes indispensables pour faire ce métier, ce seraient lesquelles?
Alors moi j'ai tendance à penser qu'il n'y a pas d'indispensable, en tout cas que j'ai pas envie d'enfermer des compétences. Par contre, je sais qu'il y a plusieurs choses sur lesquelles je peux m'appuyer. Il y a, je crois, une sincérité, pour pas dire authenticité, parce que le terme est hyper galvaudé. Je pense que la sincérité dans les projets, enfin dans ce que je défends, dans la façon dont je les défends, dans ma façon de m'adresser aux gens, c'est quelque chose qui est apprécié. Je crois que ça va de pair avec une deuxième qualité, compétence, c'est un peu compliqué ça pour moi, qui est une forme d'aisance relationnelle. Je pense que j'ai une capacité à être dans une très grande spontanéité tout en restant assez professionnelle. Et la troisième chose qui me sert vraiment au quotidien, c'est une aisance dans le fait de nommer les choses, à faire un lien d'analyse entre différents points de vue, d'avoir une capacité d'empathie qui me fait comprendre un peu l'écosystème dans lequel je me place et du coup d'arriver à s'adresser de façon correcte aux personnes avec qui je suis en lien. Et donc ça passe à la fois par l'oral et par l'écrit. J'ai l'impression que ça, c'est deux choses qui sont très importantes dans ma pratique, d'être capable de nommer les choses à l'écrit et aussi à l'oral d'être très à l'aise.
Est-ce qu'il y a une solution miracle pour bien diffuser?
Et non, et heureusement, parce que ce serait facilement remplaçable par des algorithmes ou par un robot, et ça veut dire que notre façon de défendre les choses et la façon pour les programmateurs et programmatrices de programmer ne sont pas que des éléments rationnels, et c'est assez rassurant si on considère un peu le travail des artistes. Donc non, et puis par ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire bien diffuser? C'est quelque chose qui est très variable d'une compagnie à une autre, qui dépend de la capacité, de l'envie, du temps, des artistes, des équipes. Pour moi, bien diffuser, par contre, si on le pense en termes d'éthique, c'est de le faire avec une forme d'intelligence, avec intelligence vis-à-vis de ses collègues, et intelligence dans notre adresse, c'est-à-dire savoir à qui on s'adresse, et pourquoi on s'adresse à cette personne. C'est ça, pour moi, bien diffuser.
Quel est ton modèle économique?
Je suis en CDI à 80%, bientôt à 100%. Ce n'est pas le cas de beaucoup de mes collègues chargés de diffusion, parce que, en fait, effectivement, je ne suis pas juste, entre guillemets, juste un chargé de diffusion pour la compagnie, et aussi parce que j'ai la chance, je crois, de travailler pour une compagnie qui a, et d'une, beaucoup d'activités, et de deux, qui considèrent la diffusion comme du développement. Donc, que le temps est important, le temps long, et que, voilà, que la multiplicité de ces projets fait qu'il y a besoin d'être à plein d'endroits, de coordination, de production. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas dit, mais pour moi, la production et la diffusion sont des métiers qui sont très liés. C'est important pour moi de les considérer ensemble.
C'est quoi ton rapport aux artistes?
C'est un rapport d'accompagnement. Mon endroit, c'est d'accompagner l'artiste Donc c'est parfois être dans un rapport critique, au sens constructif des choses, d'essayer de questionner. J'ai pas beaucoup de réponses, mais j'ai l'impression que c'est pas non plus ce qu'on me demande, et que par contre je suis quelqu'un qui questionne beaucoup. C'est un rapport d'interaction quasi permanent, c'est un rapport complexe, puisqu'il y a des endroits où on est très présent, des endroits où on l'est beaucoup moins. Et donc effectivement, il y a des endroits où je suis très présente dans la discussion, et puis des moments où je ne le suis pas du tout, et je suis vraiment plutôt là en sous-marin, à faire de la diffusion dans mon coin, à d'autres moments devoir s'exposer parce que être seule à devoir représenter l'artiste, enfin voilà, c'est vraiment ça au quotidien un peu. Et je crois d'ailleurs que si on veut revaloriser la profession, ce qui est nécessaire aujourd'hui, il faut faire confiance aux chargés d'IF en leur capacité à endosser une parole artistique, à l'assumer, et que ce soit pas juste des vendeurs. Et moi je crois que c'est hyper important de poser la question de qu'est-ce qu'on a envie de dire aux artistes sur la diffusion. Il y a vraiment un gros souci de recrutement lié à plein de raisons, pas du tout lié uniquement aux artistes. On a des métiers qui sont très peu reconnus, des façons de nous voir qui sont encore peu considérées. Enfin, comme si on n'avait pas de parole, de pensée, comme si on était le perroquet de l'artiste. J'ai pas envie qu'on coupe la parole de l'artiste. Simplement, je pense que c'est important qu'on amène un peu plus de considération à cette parole-là et qu'on reconnaisse que le travail de l'artiste est souvent un travail collectif et qui n'inclut pas que des artistes.
Comment est-ce que tu es devenue chargée de diffusion ?
Sur une rencontre avec Noémie. Auparavant, je travaillais déjà dans le secteur culturel, plutôt en coordination de festivals. Donc j'avais touché du doigt, mais d'extrêmement loin, ce qu'était la diffusion. Et j'étais persuadée que c'était pas pour moi. Et au cours d'une discussion avec quelqu'un, on m'a recommandé Noémie. Et le lendemain, j'avais un message qui me disait « Noémie, attends ton coup de fil ». Et entre-temps, j'étais allée voir son travail et puis ça m'avait un peu surprise que pour la première fois de ma vie, je me disais que c'était peut-être possible et puis qu'il y avait quelque chose dans son jeu et tout ça qui me touchait beaucoup. Et puis qu'elle faisait des projets aussi un peu punk, quoi. J'avais l'impression qu'il y avait une rencontre qui pouvait se faire.
Alors, c'est un peu particulier dans ton cas, car tu travailles principalement avec Noémie Boutin. Mais sinon, comment est-ce que tu choisis les projets que tu accompagnes ?
Alors, c'est particulier, ça l'est pas parce que j'ai travaillé, même en parallèle de mon activité avec Noémie, ça m'arrive de prendre sur des temps très définis, assez courts, des petites missions. En fait, je pense que je l'ai choisi, j'ai besoin d'avoir aujourd'hui un équilibre entre un projet artistique fort. Je crois que j'ai besoin d'être convaincue pour défendre un projet, convaincue intellectuellement, artistiquement. Et de l'autre côté, j'ai besoin que humainement, les choses soient saines. Je me rends compte que dans les projets que j'accompagne, donc de façon beaucoup plus ponctuelle, c'est essentiellement quand même des projets qui ont un lien avec le territoire, ce qui ne veut pas dire EAC, parce que souvent c'est confondu. Je pense que ça, c'est des choses qui ont beaucoup de sens pour moi. Donc évidemment, c'est pas très original, parce que je suis une personne de 34 ans, je recherche un peu de sens dans mon travail.
S'il y en avait un, de quel projet serais-tu la plus fière, voire même la moins fière ?
Peut-être que le projet qui pour moi qui a été très difficile, mais qui à la fois nous a énormément fait grandir, et donc aujourd'hui, en regardant en arrière, je peux me dire qu'on en est fière en tout cas, c'est La Rose des Vents, qui est ce projet avec un chef cuisinier et Noémie au plateau, et en partenariat avec des lycées hôteliers. J'en suis fière parce que ça a été un projet qu'on imaginait très simple et très léger au début, et en fait qui est devenu une grosse production, donc qui a été évidemment, qui s'est construit un peu comme ça, un peu difficilement. Et à la fois, ça nous a fait faire des bons, parce que derrière, je pense qu'on a énormément appris sur comment on avait envie de monter un spectacle, comment on avait envie de s'entourer. Voilà, donc ça a permis de clarifier beaucoup de choses, et c'est un objet dont on est très fiers.
Est-ce que tu peux nous parler d'une œuvre qui t'a marqué ?
En 2007, j'ai vu un spectacle qui s'appelle « Un fil sous la neige », qui est un spectacle d'une compagnie de cirque qui s'appelle les Colporteurs, qui sont basés en Ardèche. Et ça m'a bouleversée. Et je suis sortie en me disant que j'avais touché l'absolu, qui était un peu un rêve quand j'avais 18 ans. Et c'est, je pense, ce qui m'a fait bifurquer Après, voilà, c'est évidemment plus sinueux que ça, de la musique au spectacle vivant.
Et du coup, toi, tu écoutais quoi quand tu étais petite ?
Henry Dess, Crash Core Metal. C'était mes frères qui disaient ça sur Henry Dess. Donc Henry Dess, les cassettes Enfance et Musique et de la musique classique. Canon de Pachelbel, premier disque. Deuxième disque, Les Variations Goldberg par Glenn Gould. À ce moment-là, j'ai dit à mes parents que je voulais un vrai disque. Et ils m'ont offert le concerto de Brahms pour piano. Et là, j'ai dit, voilà, c'est ça que je voulais. Bon, pour moi, c'était du symphonique, du concerto, pas de la musique baroque et encore moins piano solo.
Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui voudrait faire ce métier ?
De s'entourer. Je pense que ce qu'il y a de plus dur dans ce métier, c'est le début. C'est de se retrouver à des endroits où personne ne te reconnaît, où tu ne connais personne, et de se retrouver dans cette immense solitude et de voir une sorte d'entre-soi. Et ça, c'est dur. Et donc, de se rapprocher au maximum de réseaux qui soient sur le web, enfin, donc virtuel, ou que ce soit sur le territoire où la personne habite. Il y a des réseaux, que ce soit des groupes de travail pour parler des problématiques qui nous entourent, que ce soit en lien pour se donner des contacts, pour se rassurer, pour poser les questions qui sont liées à nos modèles économiques. Et ouais, au maximum de s'entourer pour passer ce moment-là. Et le reste, ben, fais-le avec qui tu es.
Au terme de ces deux entretiens, nous pouvons constater que même si les préjugés sur le métier de chargé de diffusion ont la dent dure, il existe tout un pan de la fonction qui demeure ignoré, ou du moins minimisé, car oui, ce poste ne consiste pas uniquement à vendre un spectacle. Il s'agit avant tout d'endosser et d'incarner une parole artistique, comme le précise Capucine Josseau. Être chargé de diffusion, c'est être convaincu d'un projet et être prêt à le défendre coûte que coûte. Pour aller plus loin, découvrez les fiches papier consacrées aux intervenants et intervenantes de ce podcast sur le site monprojetmusique.fr et écoutez les autres épisodes de cette série dédiés au métier de la musique.